Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing.
20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix et bienvenue dans un nouvel épisode de 20 ans d'âge. Au début du confinement, j'ai rencontré Romane. Enfin, rencontré, façon de parler. Alors qu'on était chacune au bout du fil, Romane s'est livrée à moi, sans concession, sur l'état actuel de sa vie. Elle vient d'avoir 20 ans et elle a pris tout un tas de grandes décisions qui vont la changer. Elle ira voir un psy, elle se mettra au sport, elle s'occupera mieux d'elle, elle sera redevable envers ses parents et ses amis. Mais un grand événement vient mettre en pause toutes ces belles résolutions, le confinement. Pour autant, Romane ne se laisse pas abattre et te raconte avec humour et émotion son combat subitement mis en pause, mais résolument enclenché.
Alors, je m'appelle Romane, j'ai 20 ans, comme le nom du podcast en fait. Je fais des études en design de produits à Paris, mais avant j'ai un peu fait toute la France parce que les études c'est pas quelque chose de très stable chez moi.
Ah ouais?
Je bouge beaucoup en fait, tous les deux ans à peu près j'ai fait mon BTS, après j'ai déménagé, enfin avant j'ai fait un lycée où j'étais à l'internat donc j'ai aussi déménagé.
Et c'est dû à quoi? C'est parce que tu aimes changer de direction ou c'est dans la continuité de ce que tu fais ou c'est...
En fait, c'est qu'en sortant du collège, je savais à peu près ce que je voulais faire. J'étais très très bonne élève, j'avais genre 18 de moyenne, un truc comme ça au collège. Et en fait, j'avais pas envie d'aller dans le général. Alors la tête de mes parents, enfin surtout de ma mère, m'a fait « Jamais de la vie tu n'iras en technologique, sinon t'auras pas de travail, machin. » J'étais là genre « Ouh là là, non non
!» Beaucoup d'idées reçues.
Voilà, et j'ai découvert les arts appliqués en faisant des portes ouvertes sur portes ouvertes pour trouver ce qu'il fallait que je fasse pour ce que je voulais faire. C'est un peu compliqué, je voulais être joaillière à la base, c'est un peu changé en cours de route. Et donc à Nantes, il y a un lycée qui s'appelle Livette qui fait un bac technologique sur les arts appliqués et le design. Et j'ai fait les portes ouvertes et je suis hyper tombée amoureuse de la formation. Bah, j'ai fait l'internat à 15 ans pendant 3 ans.
On va revenir un petit peu là-dessus, mais d'abord, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans et comment t'abordais ça, avoir 20 ans? Comment tu l'as fêté aussi?
Alors, avoir 20 ans, j'avoue, ça m'est un peu tombé dessus parce que je suis tellement la tête dans le travail tout le temps et avec mes copains et vivre le moment et tout, que quand ça arrivait, j'étais là genre « Ah ouais, dis donc ». J'ai 20 ans, tiens. J'ai fêté mes 20 ans correctement, comme on dit. Et c'était à la fois mes 20 ans et en même temps un au revoir à mes copines parce que bah, j'allais déménager. Et c'est vrai que comme j'étais en plein dans mon déménagement et tout, je m'en suis pas trop rendu compte de mes 20 ans. C'est vrai que la transition, elle s'est faite assez naturellement, en fait, parce que à part le fait que j'allais redéménager encore une fois... Bon, ça changeait pas grand-chose à ma vie.
Et qu'est-ce que ça te fait justement de déménager tout le temps comme ça? Est-ce que tu gardes tes potes? Est-ce que tu t'en fais de nouveau sur place? Est-ce que t'as du coup plusieurs bandes de potes? Comment ça se passe?
J'ai plusieurs bandes de potes, ça c'est sûr. J'ai mes potes de Nantes, qui sont maintenant un peu éclatés dans toute la France parce qu'en fait, la formation que je fais fait que globalement, on se retrouve tous à un endroit, mais comme il n'y a pas beaucoup d'écoles, très vite on se retrouverait éclatés dans toute la France. Mais au final, par exemple, avec mes copines de Nantes, tous les ans, on fait le nouvel an ensemble et c'est la date où on est sûr d'être tout ensemble et on est sûr qu'on a un rendez-vous tout ensemble dans l'année.
Ouais, c'est important ça, de se mettre des rendez-vous.
Pareil pour mes copines, parce qu'après, j'ai déménagé à Brest. mes copines de Brest, c'est hyper important pour moi tout le temps de, aux vacances, prendre une semaine, ma voiture, je mets des blablacars, hop, je vais en Bretagne et j'essaye d'en revoir un maximum.
Et est-ce que tu as l'impression que tes différents groupes de potes te servent à différentes choses dans ta vie, à différentes phases? Est-ce que, ou alors, est-ce que tu es la même avec tout le monde?
Non, je trouve que c'est assez la même avec tout le monde. Mais au final, je sais que, par exemple, là, j'ai essuyé une petite rupture il n'y a pas longtemps. Et je sais que bah, si ça ne va pas, peu importe lesquelles j'appelle, et bah, je sais qu'elles seront quand même là pour me soutenir. Et je sais que si elles m'appellent, c'est pareil. Et peu importe si elles viennent de Nantes ou de Brest ou de je sais pas où, à Paris... Au final, ce sera toujours des potes sur qui je pourrais compter. En plus qu'on s'éclate et tout, ils sont grave bienveillants avec moi. Et ça fait super plaisir de savoir que je peux tous les avoir autour de moi si j'ai un problème, etc.
Et j'imagine que les amis, ça doit être assez important pour toi, vu que t'es partie de chez toi à 15 ans. Comment ça s'est passé, du coup, ce départ assez tôt, finalement, de chez toi?
Bah, j'avoue que moi, j'ai toujours été hyper autonome. Quand j'étais petite, je rentrais de l'école à pied et j'ai toujours fait comme ça. Enfin, mes parents, ça a été toujours une... ils m'ont beaucoup toujours laissé de l'autonomie. Et ça, c'était super parce que du coup, j'ai pas trop mal vécu de partir de chez moi. Je crois que c'est plus mes parents qui l'ont mal vécu.
Ah ouais?
Ma maman était très triste que je parte et je l'ai su en fait après, plus tard, que ça a été un vrai coup dur pour elle.
Parce qu'elle te l'a pas dit sur le moment?
Non, elle me l'a pas dit sur le moment. En fait, elle m'appelait, sauf que comme moi je prenais mon autonomie et que j'étais une jeune adolescente rebelle, ça me faisait un peu chier, si je peux le dire comme ça. Alors qu'au final, je me rends compte qu'avec le recul, c'est pas très très cool. Enfin, je pense que c'est ça aussi, avoir 20 ans, c'est j'ai pris du recul sur énormément de choses.
Et sur quoi notamment?
Sur la relation que je peux avoir avec mes frères et sœurs ou mes parents. Déjà, je suis beaucoup plus proche d'eux. En fait, je me suis rendu compte de plein de choses parce que je pense que j'ai eu du temps pour me rendre compte de ce que c'était de vivre tout seul, de ce que c'était de gérer une maison, de gérer les papiers. Et je me suis dit, ah ouais, chaud. Et genre, j'ai pris du recul sur du coup mes parents, comment ils avaient dû s'occuper de nous, s'occuper de la maison, s'occuper de l'école. Pareil avec mes frères et sœurs, je me suis rendu compte de ce que ça faisait de se retrouver toute seule. Bon, j'ai pris un chat, donc ça a été très court de temps d'être vraiment toute seule. Et après, bon...
Ah ouais, t'as pris un chat dès que t'es partie de chez toi?
Ouais, parce que je crois que c'est récurrent dans ma vie, mais je me fais tout le temps larguer. Et du coup, je me faisais larguer au moment où je commençais à habiter toute seule, hyper loin de chez moi. J'avoue, c'était pas le meilleur mood, et j'ai pris un chat.
Et ça t'a guéri?
Ah, en vrai, franchement... De ouf. Alors je dis pas à tout le monde de prendre un chat en appartement, hein. C'est des responsabilités. Hein. Après j'ai payé le veto, j'ai moins rigolé, ok? Mais en vrai ça m'a grave fait de la compagnie et même du coup l'année d'après j'ai déménagé d'appartement parce que le mien était trop cher et trop grand pour être toute seule et du coup c'était pas très foufou. J'avais l'impression de rester tout le temps dans ma chambre alors que j'avais un 35 mètres carrés, ce qui pourrait paraître très grand pour certains mais... Très petit pour d'autres, mais en vrai, quand t'es tout seul, c'est grand.
Et du coup, tu m'as dit que oui, t'avais pris du recul sur pas mal de choses. Est-ce que tu penses que toi, t'as changé en tant que personne? Tu t'es comment adolescente par rapport à la Romane que tu es aujourd'hui?
Adolescente, je me souviens que j'étais vraiment insupportable. Hein. Je me dis que je faisais beaucoup de crises et beaucoup de caprices pour pas grand-chose. Et je me suis rendu compte en commençant à devenir autonome que en fait, c'était... hyper chiant d'avoir des impératifs et que quelqu'un vienne changer tes plans comme ça. Je m'en suis rendu compte aussi en me mettant à travailler et du coup d'autant plus à 20 ans, là j'avais babysitting en même temps que mes études et d'avoir des responsabilités, de devoir faire des choses impératives et qu'au final il y ait des gens qui te disent mais non viens on va faire ça, mais non et tout. Enfin, je me suis rendu compte de ça, surtout avec mes parents en fait, et avec mes potes aussi, je me suis rendu compte que si j'entretenais pas mes relations, il y avait plus de relations en fait.
Oui, t'as changé un peu dans le sens, ta relation avec les autres, t'es devenue, t'as reconnu plus de gratitude envers les autres.
Exactement, en fait je me suis rendu compte que j'avais pu être, je sais que moi j'ai toujours été très impulsive et très... si je veux faire un truc, je le fais. Et en fait, je me suis rendu compte aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur les gens. Enfin, je dis pas que je le fais plus, mais disons que peut-être je réfléchis un peu plus aux conséquences. Et c'est pas quelque chose de mauvais forcément, parce que ça empêche pas d'être hyper spontané dans la vie. Mais je pense qu'il y a une espèce de gratitude que j'ai pu avoir envers mes parents et qui m'a fait mûrir.
Est-ce que tu te sens plus adulte aujourd'hui ? Est-ce que tu...
Bah, je sais que j'ai des réactions encore d'enfant. Par exemple, le confinement, j'avoue, au début, je prenais ça un peu à la rigolade. Et quand ils ont commencé à annoncer « Oui, bah, vous allez plus sortir de chez vous », je me suis dit « Oh oh !» Je vais peut-être rentrer chez papa-maman parce que, par exemple, ça, je me sens pas trop capable de le vivre toute seule. J'avoue que quand il y a eu les rumeurs de confinement qui sont apparues, je suis vite rentrée chez moi. Je me suis rendu compte en grandissant que, par exemple, j'avais très peur d'être toute seule. Et je me suis dit, oula, ça, incapable de le faire toute seule. On va rentrer maintenant.
Et du coup, qu'est-ce que ça t'inspire, toute cette crise qu'on vit en ce moment ? Ça te fait quoi, toi ? Ça te fait quoi comme réflexion ?
J'avoue que j'ai un peu le cerveau en off là depuis quelques semaines. Je suis dans mon travail et j'essaye de me demander comment... je vais réussir mon année, parce que ça, c'est ma plus grosse question pour le moment. Et en même temps, je me dis que pour moi, pour l'instant, j'ai de la chance. Et vraiment, je suis redevable de plein de choses. L'impression d'avoir été très égoïste et très égocentrée pendant longtemps, et je me sens très redevable de plein de gens, de plein de choses, et je me dis, waouh, il y a des gens, ils font des trucs de ouf, il y a des gens, ils ont beaucoup moins de chance que moi, et j'aimerais bien leur envoyer toute ma force, même si je les connais pas. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose, en grandissant, et à 20 ans, qu'on peut peut-être plus se rendre compte, c'est ouais, vraiment... se sentir redevable, mais remercier les gens et essayer un peu plus se rendre compte de ce qui nous entoure.
Et du coup, ce retour chez tes parents, est-ce que maintenant tu vis, est-ce que t'as vécu ça comme un vrai retour, dans le sens où maintenant tu revis comme quand t'étais ado chez tes parents, ou est-ce que tu sens que votre relation a évolué et que du coup tu vis avec eux différemment aujourd'hui ?
Bah, après, il y a des choses qui changent pas. Par exemple, bon, je ferais bien la cuisine de temps en temps, mais je sais que ma maman, elle a aussi ses petites habitudes, et parce qu'elle vit encore, par exemple, avec ma sœur et mon frère qui a de temps en temps à la maison aussi. Donc, il y a des choses que je suis obligée de me replier à des choses, à des habitudes de avant, qui ne pourront pas changer parce que mes parents, c'est comme ça qu'ils vivent et c'est chez eux. Mais par contre, je fais beaucoup plus partie, je pense, de la vie de la maison, passer à la serpillière, je fais beaucoup plus attention quand je dérange, je range. J'ai plus conscience, je pense, de comment ça peut bousculer un peu leurs habitudes aussi que je revienne, parce que bah, moi, ça me change, mais eux aussi, en fait, parce que ça fait 3 ans qu'on vit plus ensemble, donc c'est pas pareil pour eux aussi. Après... avec mes parents, depuis qu'avec mon frère et ma sœur, on est plus grands, parce que j'ai un petit frère qui a eu 19 ans, oulala, et une petite sœur qui a 16 ans. Et en grandissant, ça a été beaucoup plus dans la taquinerie. Les parents, c'est beaucoup moins dans les ordres ou dans les devoirs qu'on a à faire. C'est plus, on rigole beaucoup plus, on se comprend mieux. Bon, après, avec ma petite sœur, bon, elle a 16 ans, donc c'est pas toujours facile, mais... je fais aussi un peu plus le lien, peut-être, entre ce que mes parents veulent dire et qui ont du mal à lui dire parce que c'est des parents, et ma sœur, comment elle l'interprète. Et moi, je suis là, mais non, mais c'est pas ce qu'ils veulent dire, c'est juste qu'ils s'inquiètent. C'est vrai que bah, c'est pas facile de retourner vivre avec ses frères et sœurs aussi, même si on s'entend hyper bien. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a énormément évolué avec l'âge. Mais ça n'empêche pas que bah, quand on est 5 enfermés dans une maison, bah, y a des moments où ça pète, quoi, c'est logique. Mais je pense que c'est sain.
Et du coup, je rebondis sur tout à l'heure, tu me disais que tu te faisais beaucoup larguer.
Ah ouais, ça c'est vraiment l'histoire de ma life, c'est terrible.
Comment tu gères tout ça aujourd'hui ?
En fait, j'ai eu un premier copain qui m'a un peu déglingué la santé mentale, comme on dit. Qui a joué beaucoup avec mes limites, qui m'a trompée, qui m'a menti, enfin tout ça. Et on est resté 2 ans ensemble de 16 à 18 ans, donc ça fait pas une base super. Donc il m'a larguée. Après, je crois que j'ai jamais réussi à rester toute seule depuis. Je suis un peu passée de barque en barque avec des gens pour qui j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, mais avec qui j'étais pas très cool parce que bah, je m'en rendais pas compte, mais j'étais méchante en fait. Genre, il y a un espèce de retour de bâton, de relation qui s'est mal passée. Et je dis pas que c'est que de ma faute, hein, enfin que c'est que de sa faute ou que de ma faute, c'est des deux côtés. C'était un peu violent le fait que j'avais peur qu'on me quitte, sauf que du coup je devenais un peu passive-agressive pour qu'on reste avec moi, enfin c'était un peu compliqué. Et ça je m'en suis rendu compte qu'il y a pas très longtemps, et suite à ça, donc à 20 ans, largage un peu inattendu et en même temps... Je savais bien que j'avais des petits problèmes à régler, donc j'ai décidé de voir un psy.
Ok. Et ça se passe comment alors ?
Eh bien, ça se passe que confinement. J'avais rendez-vous jeudi dernier à un CMP à Paris, donc c'est un centre médico-psychologique, je crois, qui est un centre qui est gratuit pour les étudiants, pour avoir un suivi psychologique. Et en fait, j'avais rendez-vous jeudi dernier, donc on m'avait expliqué que j'avais un entretien au préalable qui permettait d'évaluer, donc avec, parce que j'avais une lettre d'un médecin qui me disait que je demandais un suivi psychologique, pour quelles raisons, etc. Et j'avais un entretien au CMP avec des infirmiers pour évaluer mon état, voir si j'étais suicidaire, si j'avais besoin d'être internée, si j'avais besoin d'être hospitalisée, etc. Ou si j'avais plus besoin d'un psychiatre, ou si j'avais plus besoin d'un psychologue. Et on m'avait expliqué que ça durait 30 minutes. Après, comme mon cas n'est pas une urgence, ce que je comprends, hein, ce qui est logique, vu que je suis rentrée chez mes parents, du coup, mon rendez-vous a été annulé. Mais par contre, c'est grave des petites crèmes là-bas. Ils m'ont dit, par contre, dès que vous revenez, dès que le confinement c'est fini, vous nous appelez, on reprend rendez-vous, on organise ça, etc. Machin. L'infirmière m'a dit, par contre, lâchez pas. Si vous avez pris un premier rendez-vous, c'est que vous en avez besoin, etc. Et effectivement... La rupture a été une vraie prise de conscience et j'ai pris du recul sur toutes mes relations passées et je me suis dit mais peut-être que j'aurais dû faire ça avant. Donc ouais, ça a été... Là j'avoue c'est des semaines un peu rêches parce que du coup ça arrivait juste avant le confinement. On était en relation à distance, donc ça s'est passé au téléphone. Enfin c'était un peu rêche comme transition. En même temps j'ai mes copines en FaceTime.
T'as des bons soutiens.
Voilà, j'ai un bon soutien, c'est un gros pilier de ma vie qui part. En même temps, j'ai tous les autres, donc j'ai moins peur. Ça fait pas moins mal, mais j'ai moins peur.
Du coup, je voulais te parler aussi un peu de toi, de ta vision de toi-même. Est-ce que elle a changé depuis l'adolescence ? Est-ce que
quand j'étais ado, j'avais hyper confiance avec moi-même. Et après, il y a eu le lycée, et après, patatras.
Donc, t'avais confiance en toi au collège et
j'avais
après au lycée.
Hyper confiance en moi au collège et arrivé au lycée, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et j'ai un peu perdu confiance en moi. Et c'est vrai que là, je pense que ma vie de jeune adulte, c'est lâcher un peu ces préjugés que je peux avoir sur mon corps.
Ok, parce que ta confiance en toi, du coup, c'était directement lié à ton rapport au corps. Est-ce que c'était le regard des autres qui te gênait ?
Je sais pas, en fait. Je pense que c'est le fait de voir qu'il y a des filles qui étaient trop belles et qui se trouvaient moches. Et que moi, je trouvais trop belle et j'étais là genre... Si elle se trouve moche, alors que moi je les trouve belles, moi qu'est-ce que je suis ? Et aujourd'hui, ces bases, je suis en train de les remettre en place. Comme je disais, il y a mes potes, c'est mes piliers, il y a ma famille, c'est mes piliers. Et j'essaye de construire là-dessus parce que je sais que c'est des choses qui restent. Et voilà, et je pense que ma vie maintenant, c'est de mettre de côté tous ces préjugés que j'avais sur moi-même à l'adolescence et sur les autres et de grandir en essayant de reconstruire une image qui me plaît et en accord avec ce que...
Et ça passe par quoi, du coup, de reconstruire cette image qui te plaît ? Est-ce que t'as tendance à te faire plus de compliments, à être moins dur avec toi-même ? Comment ça se passe concrètement pour reconstruire cette image ?
Déjà, j'ai tendance à me rendre compte que pour l'instant, tout ce que j'ai fait, je réussis. Et ça, j'avais du mal à l'admettre, mais vas-y, c'est bon maintenant. Je me rends compte de choses beaucoup plus simples aussi. C'est-à-dire que j'étais hyper dure avec mon apparence. Je me suis toujours trouvée pas bien. Et au final, aujourd'hui, je me suis dit, ça sert à rien de se morfondre. Vas-y, bouge-toi. J'ai pris un abonnement à la salle. Bon, il y a eu le confinement, mais je continue mes abdos.
Le confinement, décidément, ça t'a bloqué dans plein d'initiatives.
Enfin, j'ai pris un an d'abonnement. Au bout d'une semaine, il y avait le confinement. J'étais là, c'est une blague. Mais j'ai pas envie de me laisser abattre et j'ai envie de me dire que maintenant, je fais les choses à la fois pour moi et en même temps pour... Enfin, si ça me permet d'être mieux avec les autres, tant mieux. Mais c'est surtout pour moi et j'ai envie d'arrêter de me rabaisser, j'ai envie d'arrêter de pas avoir confiance en moi, genre j'ai envie de me battre. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris rendez-vous chez le psy, parce que je suis sûre qu'il peut m'aider là-dedans. Et voilà. Ouais. Et ouais, c'est vraiment des prises de décision pour être bien avec moi-même, mais je sais que ça va améliorer tout autour avec les autres, avec peut-être mes relations amoureuses. Inch'Allah, je vais arrêter de me faire larguer. Je te jure, j'en ai trop marre.
C'est trop bien, en tout cas, tu prends plein d'initiatives. Est-ce que juste le fait de prendre ces décisions-là, ça te fait déjà te sentir un petit peu mieux?
Ça me fait sentir hyper forte, en fait. Genre, le rendez-vous chez le psy, je l'ai pris. Bon, ça n'était pas... Au début, j'avais trop peur, parce que j'avais peur de pleurer toutes les larmes de mon corps chez le médecin. Au final, ça s'est bien passé. Mais je me suis sentie trop forte. Genre, je suis sortie du docteur, je me suis dit, allez, ça, c'est fait, on avance maintenant. Et c'est le fait de se dire que... Bah ouais, il y a plein de choses dans le passé, ça a été la merde et tout. Au final, maintenant j'avance, enfin je vois que j'ai avancé dans plein de choses. J'accepte aussi de me dire que je peux pas tout régler toute seule. Des fois, j'ai besoin d'aide pour des trucs, genre rentrer chez mes parents, prendre rendez-vous chez le psy, appeler mes potes. Enfin, je suis pas toute seule face à la vie. Et ça aussi, ça m'aide de me dire que tout n'est pas que de ma faute, que je peux avoir besoin d'aide, que... Ouais, je suis hyper débrouillarde, mais enfin, c'est pas grave si je dois aller chercher une main tendue. Enfin, c'est pas grave. Enfin, faut que j'arrête de me culpabiliser sur plein de choses et ça me permet de ouf d'avancer, de me sentir plus forte. Donc c'est trop cool. Et je pense que en grandissant, c'est le truc qui m'aide vraiment.
C'est quoi ton plus grand rêve en ce moment?
Ouais, mon plus grand rêve, finir mes études. Déjà, c'est un beau rêve. J'aimerais bien qu'un jour ce soit terminé. Avant, ça me faisait peur de finir parce que c'est confortable quand même les études.
Oui,
c'est papa et maman qui payent l'appart, ça j'ai de la chance. Bon, je travaille à côté, mais c'est pas trop dur. Enfin, je charbonne, je sais, enfin, ça me prend beaucoup d'énergie. Là, j'ai envie que ça se termine et de bosser et d'être indépendante, etc.
Et tu sais déjà dans quoi ce que tu veux faire?
Là, à court terme, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir parce que la situation est vraiment trop floue. C'est un peu dur, mais à long terme, ouais, ce serait vraiment... finir les études, vraiment tout éclater et faire un métier, enfin travailler dans ce que j'aime. Objectif à long terme, j'ai été prise en stage par des marques qui faisaient du matos dans l'équitation, qui designent du matos dans l'équitation. Et sauf que c'était pas à Paris, du coup c'était compliqué pour moi. Mais objectif à long terme, avoir un autre stage ou travailler dans des entreprises comme ça, parce que réunir mes deux passions, c'est vraiment un life goal.
C'est trop stylé, c'est trop bien en plus que pu réunir ces deux passions, tu vois, qui à la base semblent quand même assez éloignées, l'équitation et le design. Et finalement, bah non, t'arrives
ah ouais,
à
non, mais j'ai envoyé des lettres de motivation, ça a commencé genre, vous allez sûrement me trouver un peu, c'est pas impétueuse le mot, mais peut-être un peu, enfin bref, je leur ai dit, voilà, ce que je veux faire, c'est travailler dans le design et dans l'équitation en même temps, vous êtes la clé pour mon projet, prenez-moi en stage. Et ils m'ont dit oui.
Putain, c'est trop bien. Tu prends grave les devants, ça c'est cool.
Voilà.
Et je voudrais te poser donc la dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais?
Que t'inquiète pas, tu seras jamais toute seule.
Waouh, c'est ouf, c'est assez fort quand même comme truc.
Ouais, ça me plaît.
Merci beaucoup Romane.
Bah merci à toi, ça me fait super plaisir.
Merci à toi auditrice, auditeur d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcasts et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast@mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». À bientôt dans 20 ans d'âge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.